Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bonjour à tous, un nouveau podcast ABD avec Anaël Aubry qui nous fait le plaisir de revenir nous voir. Donc Anaël qui est, si vous n'avez pas vu les autres épisodes, sport scientist, conseiller dans plusieurs équipes sportive et notamment dans le sport professionnel, mais aussi dans le sport amateur et dans le sport olympique. Il est un petit peu partout et du coup, c'est un petit peu le thème de la discussion d'aujourd'hui. On va se poser des questions sur les systèmes de performance. Alors, les systèmes de performance, évidemment, français et internationaux dans le sport amateur versus le sport professionnel.
Ok. Voilà, vaste débat.
Vaste débat, d'autant plus intéressant qu'on a l'ambition de faire des beaux jeux chez nous en 2024. C'est demain. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est armé pour ça?
Alors, on parle la France ou on parle suivant les projets?
Ah ben, je pense qu'il faut raisonner à l'échelle de l'olympisme, à l'échelle du sport amateur. Est-ce qu'on peut se dire que, bon, ça inclut un peu le sport pro aussi, hein, bien sûr, mais peu, les Jeux Olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu constates des grosses différences entre ce que tu as pu vivre à l'INSEP, par exemple, et ce que tu vis aujourd'hui au quotidien dans une équipe professionnelle cycliste?
Alors, déjà, pour aller encore régulièrement à l'INSEP dans des fédérations, moi, personnellement, j'ai vu assez peu de changements à partir du moment où on a eu les Jeux et quand on est maintenant. En tout cas, pas à l'échelle de ce qu'on a pu connaître chez les Britanniques, hors toi de l'intérieur et moi de l'extérieur.
Donc juste pour recadrer, derniers Jeux Olympiques, la France, 7e nation. Donc une performance relativement moyenne. On est loin derrière les Allemands et et surtout les Britanniques. Mais aussi, on est talonné dans le peloton qui va nous poser des problèmes. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les équipes à battre, mais en fait, derrière, il y en a d'autres qui se concentrent sur nous. Hein. Je pense au Japon, évidemment.
Qui se prépare bien pour 2020.
Qui se prépare bien, et c'est pas d'hier. Je pense à la Corée, je pense même à l'Italie. Voilà, des nations qui sont vraiment en concurrence avec nous, il y en a quelques-unes.
Et c'est pour ça que je te faisais un double message, c'est qu'il y a ce qui est mis comme moyen en haut, donc financier, humain, matériel, etc. Et donc, finalement, des évolutions vis-à-vis du passé. Parce que si on ne fait pas évoluer les choses, sauf si on tombe sur des générations monstrueuses,
on ne fera pas mieux.
Voilà, on fera peut-être un petit peu mieux parce que c'est à la maison.
En chemin, il y a quand même Tokyo.
Voilà, en chemin, il y a Tokyo.
Dans 2 ans.
Et c'est pour ça que je te donnais le double message. C'est qu'à l'inverse, tu parlais de ce que j'ai pu faire dans le sport amateur. Donc, je vais parler avec les équipes avec lesquelles je suis encore, pas celle de Rio. Donc, ce n'est pas 3 gros sports. Hein. C'est le triathlon, l'eau libre et le pentathlon moderne. Donc, la natation en eau libre, qui ne sont franchement pas des gros sports. Hein. Ce n'est pas le foot, le tennis. etc. Enfin,
triathlon, ça peut potentiellement rapporter autant de médailles que le foot ou le...
Oui, oui, non, je veux dire en termes de moyens fédéraux,
bien sûr.
C'est plutôt ça que je voulais dire. Et puis c'est des sports que, mine de rien, dans le grand public, on connaît assez peu. C'est ça que je voulais dire aussi.
Moins suivi, en tout cas.
Par contre, ces dernières années, c'est trois sports où on est meilleure nation mondiale. Pourtant, en termes de but...
On n'en a pas assez parlé, d'ailleurs, pour le triathlon.
Voilà, donc, et l'eau libre et le pentathlon, encore plus. Enfin, encore plus, non, tout autant. Donc oui, typiquement, le triathlon, l'eau libre, le pentathlon sont meilleures nations mondiales. C'est pas grâce à moi. C'est surtout grâce au fait que la première chose, c'est qu'il y ait des vrais chefs. Donc ça ne veut pas dire des chefs dictateurs, hein, ça veut dire des chefs qui sont à fond dans le projet et qui drive la chose.
Qui prennent des décisions et qui fixent un plan de route.
Qui fixent un plan, qui vont beaucoup déléguer. Donc moi, typiquement, ce que je fais, qui est un petit peu scientifique sur la gestion de la fatigue, la nutrition, etc., le chef va être au courant des dossiers. Hein, je vais lui faire valider. Il ne peut pas tout regarder dans les détails, mais par contre, il va le valider. Il va l'expliquer également aux athlètes, aux entraîneurs, aux autres membres du staff. Donc, il est partie prenante de la chose. Par contre, il ne peut pas tout gérer au quotidien. Par contre, il drive vraiment. Et ce qui fait que déjà, quand moi, dans une position qui est assez particulière de scientifique, alors là, maintenant, je suis dans des équipes où on est en pleine confiance, hein, mais au départ, quand tu amènes un scientifique sur le terrain, il faut faire ses preuves, se faire accepter avant de pouvoir vraiment avancer. Et donc, déjà, qu'il y ait un chef qui croit et qui défend la chose, ça, dans ma position, ça aide beaucoup.
Bien sûr. C'est un facteur de performance.
C'est un facteur de perf. Parmi tous les autres et qui, en l'occurrence, à mes yeux, arrivera bien après ce qui est fait au quotidien. Donc, dans l'entraînement, dans la vie de tous les jours, dans ce qui se fait en dehors de l'entraînement, dans les moyens qui sont mis aux athlètes pour bien s'entraîner, être bien entouré, etc. Et donc, typiquement, quand tu disais ça, tu en connais certains. Hein. Le triathlon, ça te parle parce que, de mémoire, le DTN actuel, t'es ton... collègue de promo, hein, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, exactement.
Benjamin Maz, donc qui a pris la suite de Franck Binier, qui avait déjà bien préparé le terrain pendant deux DTN. Olympiades, voilà, qui est souvent une fédé assez montrée en modèle, alors qu'avec peu de moyens et pas tant de sportifs que ça, hein, il y en a, mais pas non plus des millions. Et
puis, avec une grosse opposition mondiale.
Voilà, on n'est pas une terre de triathlon, hein. on n'est pas l'Australie, on n'est pas les Britanniques, et pourtant, là, on les embête bien en ce moment, dans toutes les catégories, hein, des jeunes jusqu'aux grands. Et donc derrière il y a un vrai projet, et le projet c'est on veut être champion olympique. Qu'est-ce qu'il faut pour être champion olympique? Donc par contre, et c'est en ça que je te disais que j'ai un petit peu un double discours, c'est que alors plus ils auront de médailles, plus ils auront de moyens vis-à-vis d'autres fédés, parce que la répartition se fait aussi comme ça, hein, un contrat d'objectif, tu connais bien ça dans les fédérations dans lesquelles tu as été. Par contre, on reste très très loin de, tu parlais des Italiens, en eau libre, les Italiens ils ont 10 fois notre budget. L'année où, au championnat du monde, en 7 courses, on prend 4 titres de médaille d'argent. Donc, on se loupe juste sur une course, mais une course où il y avait peu de chances qu'on fasse une médaille. Mais bon, on met quand même 2 finalistes. Et pourtant, les Italiens, ils sont bien emmerdés qu'on soit devant eux.
On a quand même des cadres d'État. Même si le budget est un petit peu plus faible au total, on a quand même une... jusqu'à ce que ça change, parce qu'en plus, les messages qu'on entend émaner du ministère en ce moment, c'est plutôt que... les cadres d'État auraient une durée de vie limitée, il n'y aura peut-être même pas jusqu'aux Jeux de Paris. Tant que ça dure, on a quand même cette dotation en hommes auprès des fédérations.
Oui, typiquement, tu vois, tu connais bien le triathlon, c'est un bon exemple. Hein, c'est que, alors que c'est une petite fédé avec peu de moyens, Benjamin arrive à défendre auprès du ministère le travail de ses hommes, parce que ça marche. Il arrive même à recruter. Ce qui est quand même...
Ce qui n'est pas dans l'air du temps.
Voilà, ce qui n'est pas dans l'air du temps. Donc
paradoxalement.
C'est que ça marche bien et qu'il défend bien ses hommes. Par contre, tu as raison, c'est des hommes. Et typiquement, si je prends ces 3 équipes, tout repose sur quelques hommes qui se surinvestissent. Et donc, ça marche pour faire des médailles. Ou qui vont même aller chercher, tu vois, l'eau libre. Stéphane, ses premières décisions, c'est d'avoir été chercher Philippe Lucas, qui est un entraîneur qui fait un peu peur.
Pour le moins polarisant.
Pourtant, depuis 20 ans, il sort des champions du monde tous les ans. Donc, il doit quand même savoir un petit peu entraîner.
Il doit se passer quelque chose, en tout cas, ouais.
Voilà. Et puis, donc, visiblement, c'est un très bon entraîneur qui sait faire gagner ses athlètes, hommes ou femmes, d'ailleurs, jeunes ou vieux. Il connaît le terrain, que ça soit physique ou psycho, hein, parce que c'est un très bon prépa mental, même s'il n'a pas l'étiquette. Hein. Je l'ai vu en compète. Pour trouver les choses avec ses athlètes, il est très fort. Et puis, Stéphane va essayer, en tout cas, de trouver des ressources qui vont pouvoir l'accompagner aussi. Donc, typiquement, la prépa mentale, je le disais pour Philippe, mais il va aussi avoir une prépa mentale qui va venir l'accompagner sur des choses qui m'intéressera peut-être un petit peu moins, hein, sur le lâcher prise, ce genre de choses. Sur le côté récup, ça va plutôt être moi, parce que Philippe, c'est un super coach, mais c'est pas son job de faire récupérer les athlètes quand il y a besoin. Sauf que si Philippe fait un super job, et qu'on arrive au championnat du monde où, si je te prends Aurélie Muller, qui est un petit peu notre leader, Aurélie, le premier jour, elle fait championne du monde du 10 bornes. Deux jours après, elle a le 5 km, où elle fait médaille d'argent. Et le lendemain, elle a le relais, où on gagne le titre. Donc, Philippe aura beau être le meilleur entraîneur du monde. Si à côté, ils mettent des moyens pour faire récupérer leurs athlètes, il y a des chances qu'au moment où on arrive au relais, ça soit un petit peu resserré, quoi. Donc, je pense que c'est possible, parce que visiblement, dans ces fédés, dans ces équipes nationales, on gagne. Alors qu'on n'a pas forcément plus de moyens que les autres, plutôt moins, beaucoup moins. Par contre, ça passe par un surinvestissement qui, est à mes yeux, et là, je sors un peu du sport, hein, tiendra qu'un temps. Parce que Benjamin, Stéphane, si on reparle du pentathlon, c'est Jean-Maxence et Jean-Philippe. Jean-Pierre, je l'appelle que par son surnom d'habitude, qui est Chico. Du matin au soir, sauf que le matin commence très tôt, le soir finit très tard, ils font que ça. Le week-end, ils font que ça. Les vacances, ils n'en ont pas. Donc, ça fait des médailles.
Mais effectivement, on peut faire deux Olympiades, voilà. Trois éventuellement, et au bout du deuxième divorce.
C'est ça, hein, c'est ce qui se passe d'ailleurs souvent pour beaucoup d'entre eux. C'est souvent un des premiers déclics, c'est le divorce. Après, il ne faut pas s'étonner parfois.
Deuxième déclic, c'est quand ta fille ne te reconnaît pas à 14 ans.
C'est ça. Donc, il ne faut pas s'étonner que soit certains partent à l'étranger, soit à un moment donné qu'ils ont envie de lâcher du lest. Et que,
bien sûr.
Tu disais son cadre d'État, le bon côté, c'est que tu es fonctionnaire.
Mauvais, c'est qu'ils sont payés au lance-pierre pour leur engagement.
Donc, à un moment donné, quand la cocotte minute, elle explose. On peut critiquer parfois les fonctionnaires de se dire ils ont un travail à vie, etc. etc. Tu peux aussi tomber sur ce petit côté un petit peu où les gens de l'extérieur vont se dire mais dans les fédés, les mecs sont fonctionnaires. Là, ils sont fonctionnaires, mais les mecs font 80 heures semaine toute l'année. Donc, c'est visiblement, ils aiment leur métier et qu'ils vont au-delà
très clairement.
Du côté fonctionnaire, grand public. Quoi.
Bien sûr, il n'y a pas un fonctionnaire, ça c'est sûr. Et si je reprends ce que tu me dis, en fait, c'est hyper intéressant. Ça, je le recroise avec un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « JO 2024, participer ou gagner » de Ludovic Moschien. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le feuilleter. Et c'est une des préconisations récurrentes de tous les acteurs qui ont été questionnés, hein, que ce soit les gens du CNOSF, les gens de l'INSEP, les gens du haut niveau, les entraîneurs de haut niveau, les DTN, les présidents actuels ou passés. Tous fustigent l'absence de chef aujourd'hui dans le évidemment dans le sport français, mais encore plus dans le sport de haut niveau. Et du coup, pas de chef, pas de projet, pas de direction. Et c'est un peu cette impression-là qu'on a aujourd'hui, à quelques pas des Jeux Olympiques, on a l'impression qu'il n'y a toujours pas de chef incontestable à bord qui dit voilà le point A, voilà le point B. Point B, c'est le podium olympique qu'on vise. Top 5, on dit, si les Britons font P2, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se glisser sur le podium à notre tour. Bon, disons que l'objectif, c'est P5, c'est le point B. Mais entre les deux, il n'y a pas ce chef qui dit, suivez-moi, c'est ça le chemin.
Honnêtement, sur ces équipes-là qui ont gagné, ou d'autres avant avec qui j'ai pu travailler, le VTT, la boxe avait bien marché, à Rio aussi. Si tu veux, ce que j'ai toujours retrouvé, c'est ce que tu dis. Dans ces équipes-là, il y avait un vrai chef. Ça ne veut pas dire un dictateur, mais ça veut dire déjà quelqu'un de respecté.
Non, un vrai leader. Ouais.
Très respecté, qui met en place des projets, qui délègue beaucoup à ses hommes, mais parce qu'il leur fait une confiance aveugle et qu'il les a choisis.
Ça, c'est important. On se rend compte aujourd'hui dans le système INSEPien qu'une CP1 ministérielle, même dans certaines équipes pro, qu'on arrive dans des systèmes où c'est dead man shoes, quoi. On arrive, même si on arrive à la tête d'une équipe, les membres de cette équipe sont déjà là et seront probablement souvent là après nous. Mmh. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est sans doute un des problèmes. On ne choisit pas les équipes avec lesquelles on travaille, en tout cas pas tout le temps. Mmh. Quand on arrive, qu'on est DTN, on a l'équipe qu'on a. On peut recruter peut-être une ou deux personnes. Et encore, dans un pool de gens qui ont un statut, un profil recrutable, hein, c'est vrai que c'est encore beaucoup de profs de sport, beaucoup de fonctionnaires, justement. Mmh. Et du coup, ben, c'est, d'un point de vue managérial, c'est difficile de déléguer. C'est pas aussi facile que ça.
Ouais. Ouais, et du coup, tu vois... C'est marrant, hein, j'ai jamais pensé à ce que tu me dis, mais ces trois équipes, bah, le Pinta, c'est simple, ils sont deux. Donc, ça marche pas mal apparemment, donc changeons de nom. De toute façon, il n'y a pas moyen de changer l'équipe. Le triathlon, c'est ce qu'on disait, hein, Franck a fait deux Olympiades et, bah, si tu veux, son cheminement a été finalement de construire l'équipe qui lui paraissait la plus cohérente, notamment en filtrant les gens qui passent le professorat aussi, hein, en allant proposer de passer le professorat à des gens qui sur des stages de ligue, etc.
Ont été identifiés.
Ont été identifiés comme ce gars-là, il vaut vraiment le coup sur ces aspects-là. C'est un super coach ou c'est un super formateur, hein, parce qu'il y a aussi la formation, enfin, là, il y a plein de choses. Et puis finalement, Benjamin, Harry, avec des équipes déjà construites et finalement qui ont évolué sur les...
Tout à la fois équilibrées, polyvalentes et compétentes.
Voilà. Et puis bah, Stéphane, l'autre chose, c'est que c'est une fédération où il y a quatre sports. Donc le plongeon, la natation course... la natte synchro et l'eau libre. Et donc, finalement, l'avantage qu'il a eu, c'est qu'à la base, l'eau libre est un peu un des parents pauvres. Il y a trois petits sports et un gros sport, hein, en natation. Et donc, il a pu aussi choisir ses équipes.
Ouais, c'est vrai que paradoxalement, on a souvent plus de marge de manœuvre dans les sports plus confidentiels, qui sont justement un peu laissés parce que, en fait... Tout le monde au sein de la fédé, des fois, s'en fout un petit peu de certains sports. Mmh. Et il y a un petit peu plus de marge justement de recrutement.
Donc, je pense que tu vois, il y a ça. Il y a le vrai chef, il y a les équipes. Et je pense que le point suivant, qui devient le plus important pour que ça marche, c'est que les gens se parlent. Mmh. Donc, ça veut dire que, OK, moi, je fais de la science, ce qui peut faire peur sur le papier. Par contre, je vais le vulgariser pour. Ça ne veut pas dire baisser le niveau, hein, ça veut dire rendre compréhensible des choses qui pourraient être auxquelles les gens n'auraient pas pu forcément avoir accès par le passé. Et ce qui va faire que ce dont on parlait sur le précédent module, les précédents modules, même sur la récup ou la fatigue, et ben derrière, ayant expliqué c'était quoi un bain froid, ayant expliqué ce qui se passe quand ils sont trop fatigués. Eh ben, quant à l'entraînement, je vais appeler le coach Patrick, par exemple, et lui dire « Patrick, je pense qu'Aurélie est peut-être un peu trop fatiguée parce que… » déjà, il va comprendre, puis on va en discuter. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, hein, parce que maintenant, on se connaît très bien et qu'on discute tous les jours. Et puis derrière, « OK, Anaël, je te fais confiance. On fait quoi? On fait comment? Moi, je pense que. Toi, tu penses quoi? Et feu, et on y va. » Sauf que si chacun avance de son côté,
bien sûr.
Compliqué.
Bien sûr. Du coup, je fais un peu le parallèle. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, évidemment, mais on peut continuer à réfléchir sur cet aspect managérial des choses, finalement. Moi, j'ai jamais travaillé dans des grosses structures de haut niveau. Quand je suis dans des sports de haut niveau, professionnels, j'entends. Mmh. Quand je suis dans les sports professionnels de haut niveau, c'est le golf ou le sport auto. Donc, on est dans des micro-structures. Là, le chef, c'est évident. En général, c'est le joueur ou le pilote, éventuellement le manager. Et du coup, c'est pareil. On se retrouve avec quelqu'un qui va choisir minutieusement les membres de l'équipe qui vont constituer le staff du joueur ou du pilote. Et la relation est complètement différente. Là, le projet, il est très, très clair. D'un seul coup, tout est posé. On rend compte. On se retrouve à systématiquement produire du document et au moins des zones d'échange et de... discussion sur ce qui se passe et ce qu'on compte faire et comment on compte le faire, ce qui est complètement dilué, j'ai l'impression, en sport amateur. Qu'est-ce que tu vis, toi, au vélo?
Alors, déjà, j'allais juste rebondir très rapidement sur ce que tu disais, c'est que ces trois sports fédéraux, c'est des sports qui gagnent à l'international. Par contre, ce qui est flagrant, c'est que ceux qui arrivent à gagner, ce sont ceux vers qui, alors soit naturellement, soit le chef les y aura amenés, ou leur coach, etc., seront ceux qui seront devenus maîtres de leur projet. Donc on a beau être peu et surtravailler, finalement on devient des accompagnateurs. Et pas simplement tu fais ça, tu n'as pas le choix. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que je pense que tu retrouvais ça dans d'autres sports, tu me confirmeras, mais en principe, ceux qui gagnent sont quand même ceux qui deviennent relativement, je ne sais pas si le mot autonome, mais en tout cas, comprennent ce qu'on fait et vont savoir aussi, un, avoir leur mot à dire, et deux, vont s'investir dans le projet parce qu'ils savent pourquoi ils s'y investissent, parce que c'est leur projet.
On peut pas les porter, hein, ça c'est évident. Hein.
Non, ça ne marchera pas. Ou alors, très rarement, mais puis, bon, pas ça, sur le long terme.
Ça renvoie aussi au rôle modeste qu'a chacun des maillons à son niveau, c'est-à-dire que ce soit le sport scientist ou le préparateur physique, bien sûr qu'on influence la performance, mais tellement peu comparé à ce que produit réellement le sportif de haut niveau en lui-même à l'échelle de sa carrière. C'est évident que si on n'a pas des gens impliqués et qui contrôlent les paramètres eux-mêmes et qui interagissent avec les paramètres.
Oui, puis typiquement, alors je parle des sports que je connais, mais dans les sports d'endurance, à un moment donné, si tu ne te prends pas en main le jour de la course, tu ne peux pas gagner. Il y a des décisions à prendre, comprendre le milieu, comprendre les adversaires, et là, à un moment donné, tu n'es plus derrière lui pour lui glisser dans l'oreille, fais ça.
Non, clairement, donc, quel que soit le talent, je ne connais pas de champion passif.
Et donc, ouais, pour répondre à ta question, bah, déjà, alors que moi, je ne suis finalement pas dans la plus grosse équipe cycliste, hein, c'est une équipe qui a sa deuxième année, alors l'idée, c'est de d'évoluer au fil des années, hein, mais on ne va pas devenir la Sky, qui est la grosse équipe britannique en un an. Hein. Et malgré ça, premier stage, 23 coureurs, on était 60 en tout, en comptant les coureurs. Donc il y avait plus de staff
que de coureurs.
Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi. Donc ça fait beaucoup plus d'interlocuteurs que le simple coach kiné, parfois docteur et chef d'équipe.
Tu as en tête les chiffres, je reviens juste sur l'INSEP pour faire un tout petit parallèle. En prenant simplement le département des sciences du sport, tu te rappelles combien il y a de chercheurs à l'INSEP ?
Ça évolue régulièrement entre les thésards, les non-thésards, mais oui, on est autour de la vingtaine en comptant les thésards, si
donc
je ne dis pas
de
bêtises.
Donc la vingtaine en comptant les thésards, donc une dizaine de titulaires.
Oui, on est à peu près à ça sur les périodes.
On est environ à 10 ou 20 fois plus chez les Britanniques, c'est ça ?
Mes collègues qui sont en Grande-Bretagne, sur des petits sports, ils vont déjà être plusieurs sports scientistes à temps plein, sur le sport.
Donc, par discipline.
Tu vois, typiquement, c'est des gens que tu as bien connus, Émilie Thénault, qui est une amie commune. Émilie, elle s'occupait juste. Elle était à la voile, mais elle s'occupait seulement de certains bateaux de la voile. Et si je ne dis pas de bêtises, à l'approche des Jeux, même d'un seul bateau. Quand moi, là, je t'en cite trois en ce moment, mais il y en avait beaucoup plus pour Rio. Et je faisais aussi de la recherche, et je faisais aussi ma thèse, et je donnais aussi des cours. Donc quand on est motivé, passionné, c'est bien. Mais forcément, on va moins loin, et puis
on se disperse un petit peu, bien sûr.
Donc là, oui, typiquement, par exemple, l'équipe de vélo, déjà, même pour ça, je suis assisté. C'est que j'ai un coordinateur de la perf, où typiquement, lui va faire le lien entre moi, les directeurs sportifs, qui sont les gens dans la voiture, les athlètes, la direction, etc. Le docteur est spécialisé dans la micronutrition, donc la nutrition, je ne vais pas la faire tout seul. Les assistants s'occupent principalement de la récup sur le terrain, donc ce n'est pas moi qui vais aller mettre l'eau froide et aller au bain froid. Au début, je vais y aller, hein, forcément, pour protocoliser ensemble. Tout est OK, je vais vous aider, voir les petits problèmes, mais ils font 150 jours de course par an, donc je ne serai pas là tout le temps. Les coachs sont là juste pour coacher et pas pour faire autre chose. Donc les gens sont, oui, beaucoup plus responsabilisé sur une mission. Et donc, tu as raison, on se disperse beaucoup moins. Et typiquement, on en discutait, on a mangé ensemble juste avant. Là, en deux mois, je pense que je suis pas loin d'avoir fait ce que j'ai fait en plusieurs années dans des équipes nationales. Tout va beaucoup plus vite, forcément. Et puis, en fait, j'ai pas tellement le choix. C'est que, par exemple, il y a des choses qui sont nouvelles pour moi. C'est les enjeux. Les Jeux Olympiques, on veut tous les gagner. Et on se donne à fond pour les gagner, mais on fait autant que possible. Sauf que là, l'enjeu, c'est que dans un mois et demi, on saura si on est sélectionné au Tour. Tout repose sur le Tour de France, en termes d'enjeux économiques et médiatiques. Donc forcément, le sponsor et manager essayent de mettre les moyens en conséquence comme ils peuvent. Hein. C'est pas parfait. Hein. Mais d'ailleurs, s'ils n'ont pas le Tour, ça peut être un sponsor qui dégage. Et un sponsor qui dégage, c'est 3 millions de moins. Et 3 millions de moins, c'est 35 personnes au chômage.
La performance est prioritaire.
Oui, clairement, là, tu vois, le message, c'est ASO, donc l'organisateur du tour, a fait passer le message qu'on était trois équipes pour deux places. Alors c'est comment dire, c'est pas très officiel, mais tout le monde le sait. Et ben forcément, on nous a bien fait redescendre, qu'on a un mois et demi pour faire nos preuves, parce que dans un mois et demi, ça tombera, et si ça tombe pas, ça peut être compliqué. Donc du coup, faut perf, pas le choix.
Parce que la perf, c'est sortir de sa zone de confort finalement.
Ouais, et pour les coureurs aussi du coup, parce que typiquement, si je reste sur mon petit truc, et ben on protocolise des choses qu'ils faisaient pas forcément avant. Ça veut pas dire qu'ils faisaient pas bien, hein. Ça veut juste dire que par habitude, ils ont fait des choses plus ou moins bien et qu'on se dit, ah bah tiens, ça pour la perf, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc on est obligé de les sortir de leur zone de confort. Et puis bah, même au quotidien, parce que bah, les réseaux sociaux, maintenant, c'est tout ce qui se passe à côté. En plus, le vélo, ce qui est sympa, c'est que les 30-40 équipes pro, on est sur 100 km de distance sur la côte est de l'Espagne en stage. Donc on sait tout ce qui se fait, donc à l'entraînement notamment. Donc les mecs, d'eux-mêmes, bah, le matin, ils vont se lever pour se la coller parce qu'ils savent que sinon il n'y a pas le tour, et s'il n'y a pas le tour, même eux ne seront pas contents, sans même parler d'enjeu.
Ok, bon, merci. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à discuter. On aura plein d'autres occasions dans d'autres épisodes podcast. Si on essaye de retenir quelques petites notions là, de cet échange hyper intéressant, en vue des Jeux, il faut qu'on professionnalise la démarche au moins du sport olympique français.
Ouais.
Qu'on arrive à avoir un vrai management, un vrai leader, un vrai chef, quelqu'un qui prend des décisions et qui fixe un cap. Merci Anaël. Merci. Vous
avec
pouvez
plaisir.
Suivre Anaël sur les réseaux sociaux. Il publie beaucoup. Il a aussi sa chronique sur lepapinfo.fr.org.
J'aurais dit .com, mais j'ai un doute. Mais le plus simple, c'est dès qu'il y a un nouvel article, je le balance sur mes réseaux.
Voilà, n'hésitez pas à suivre. Et puis toujours plus d'articles et de podcasts sur broussal-derval.com. Merci à tous.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.